Évidemment, la véritable existence du citadin, celle qui emplit la ville à ras-bord et sans laquelle il n'y aurait pas ce savoir, n'a absolument rien de gratuit. Nous, Berlinois, dit Hessel, devons habiter notre ville encore davantage. Il l'entendait bien sûr au sens littéral et faisait moins allusion aux maisons qu'aux rues. Car celles-ci sont la demeure de l'être éternellement inquiet, éternellement agité, qui apprend, reconnaît et imagine entre les façades des maisons autant de choses que l'individu à l'abri de ses quatre murs. Voilà, c'est la fin de la citation. Vous voyez le style de Benjamin qui est toujours un peu spiralé comme ça. Pas évident à lire et à suivre, mais... Et donc, la ville s'offre aux flâneurs à la fois comme paysage et comme chambre. C'est-à-dire comme chambre, c'est-à-dire comme intérieur. Que l'espace urbain relève à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, qu'il soit à la fois un espace ouvert et un espace fermé, c'est ce qui va pousser Walter Benjamin à consacrer une longue étude au passage parisien, ces galeries couvertes qui se présentent à la fois comme rue et comme salon d'exposition des marchandises. Mais la ville est pleine d'espaces intérieurs par lesquels le citadin s'échappe vers un ailleurs. Les théâtres, les panoramas, les bibliothèques et plus tard, les salles de cinéma. Les miroirs suspendus au mur des cafés parisiens voudraient agrandir l'espace et l'éclairer, mais c'est encore la rue qu'ils reflètent. Les enseignes, les affiches sont autant d'écrans chargés de textes et d'images qui ajoutent à la verticalité des façades. Les panneaux signalétiques nous orientent dans nos déplacements. Pour Benjamin, comme pour Krakauer, la ville se donne comme un espace d'image, un formidable montage à travers lequel s'exprime l'inconscient de l'époque. Dans ses textes sur la photographie et le cinéma, et surtout dans ses commentaires sur Baudelaire, Benjamin décrit également l'espace de la ville comme une seconde nature, un environnement né de la technique qui engendre une nouvelle sensibilité et altère celle qui l'a précédée, la sensibilité du monde pré-industriel, la fameuse expérience de l'aura qui nimbe toute chose. La ville est le lieu de la perte de l'aura, de la perte de l'expérience. Dans les textes tardifs sur Baudelaire, Benjamin montre comment l'habitant des villes est soumis à des chocs constants qui affectent sa sensibilité. Faire corps avec le monde n'est plus possible que de manière involontaire ou au prix de grands efforts dans de brefs instants d'illumination. Dans la dialectique qui fait apparaître la ville aux flâneurs comme paysage et comme intérieur, Benjamin a privilégié sur le plan théorique l'image de la ville comme intérieur. L'image de la ville comme paysage appartient au pan littéraire de son œuvre, celui des images de pensée. Si Benjamin ne cesse de s'attacher à ce qui est selon lui menacé de disparaître, l'expérience de l'aura, l'art de raconter des histoires, la possibilité du lyrisme, il nous invite sans cesse à chercher les indices de leur retour et à nous en saisir comme des outils. La marche du flâneur est l'un de ces phénomènes qui fait retour, concurrencé par les moyens de circulation modernes, par les exigences de la productivité et tous les rythmes de la ville. Habiter davantage est impossible sans la position de l'observateur, c'est-à-dire sans le contraire de l'habiter, le mouvement de la marche qui ouvre la ville et la transforme en paysage. La marche, comme l'art de raconter des histoires, restaure des continuités dans l'expérience. Elle incite à composer notre propre montage. Elle incite à composer notre propre montage dans les territoires fragmentés de la ville. L'article sur les promenades dans Berlin, se termine par une formule amusante. Assimilant la flânerie à un rêve et le livre de Franz Hessel à un recueil d'interprétations, Benjamin conclut de la manière suivante. Désormais, ce registre, ce livre égyptien des rêves éveillés, est aussi compilé pour Berlin. Et si le Berlinois explore sa ville à la recherche d'autres promesses que celles des publicités lumineuses, cela lui ira droit au cœur. D'autres promesses que celles des publicités lumineuses. S'agit-il vraiment d'une pirouette? N'y a-t-il pas là, en définitive, un lien à faire avec l'appel d'Erich Unger à surmonter le capitalisme par la Wanderung? Si chez Erich Unger, il ne s'agit pas à proprement parler de marche à pied, il s'agit bien d'un déplacement. Sortir des promesses publicitaires qui façonnent la ville, c'est-à-dire sortir des logiques commerciales mais aussi des logiques techniques, sécuritaires, culturelles ou sociales, cela exige un déplacement. D'où l'importance de se perdre plutôt que de trouver son chemin, d'explorer la périphérie avant de se ruer dans le centre-ville, de flâner sous l'emprise du haschich comme Benjamin le fit à Marseille, de se rendre sensible au phénomène de porosité, de s'ouvrir à l'improvisation, de prendre en somme la ville à rebrousse-poil, comme Walter Benjamin invitait à prendre l'histoire à rebrousse-poil pour briser la fatalité du progrès. C'est bien là l'expérience que nous essayons de mener dans l'exploration urbaine. Traverser à pied des espaces qui ne sont pas prévus pour la marche, franchir la limite de nos préjugés, chercher la valeur de ce qui semble sans valeur et que l'on classe hâtivement sous le nom de non-lieu, et découvrir aussi, en étudiant l'histoire des territoires traversés, que tout a une histoire et que dans cette mesure, nous avons la possibilité de changer le cours des choses. Voilà, je vais terminer cette partie en vous lisant un des textes que Benjamin a écrit sur Marseille. Benjamin a écrit une série de 10 petits textes qu'il appelle « Images de pensée » qui sont autant de paysages urbains à grande ou petite échelle qui décrivent différents aspects de Marseille. Et dans le livre « Mes deux contes illustrateurs », j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai rassemblé tous les textes que Krakauer et Benjamin avaient écrits sur Marseille et je les ai traduits et ou retraduits pour ceux qui avaient déjà été publiés. Donc je vais vous lire ce texte dans la traduction que j'ai publiée dans ce livre. Ce texte importe beaucoup pour moi car c'est une description de ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers nord de Marseille, donc de la banlieue ou de la périphérie de la ville. Et Benjamin, qui s'est beaucoup intéressé à la ville, au motif de la grande ville moderne, a écrit relativement peu sur la banlieue. Je pense que c'est peut-être un des seuls textes qu'il a écrit sur la banlieue, celui que je vais vous lire, ce qui se comprend tout à fait puisque la banlieue se développe à l'époque de Benjamin et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle a pris une ampleur telle qu'on peut la considérer comme un modèle de ville ou un modèle urbain à part entière. Et donc c'est principalement en banlieue que je mène cette activité de promenade urbaine. Je vous lis le texte. Il s'intitule « Faubourg ». Faubourg. Plus nous nous éloignons du centre, plus l'atmosphère devient politique. Voici venir les docks, les bassins du port, les entrepôts, les cantonnements de la misère, les asiles dispersés. Ah pardon, j'ai fait une petite bourde. Plus nous nous éloignons du centre, plus l'atmosphère devient politique. Voici venir les docks, les bassins du port, les entrepôts, les cantonnements de la pauvreté, les asiles dispersés de la misère. La banlieue. Les banlieues sont l'état d'exception de la ville, le terrain sur lequel s'entrève, fait rage, la grande bataille décisive entre la ville et la campagne. Elle n'est nulle part plus acharnée qu'entre Marseille et le paysage provençal. C'est le combat rapproché des poteaux télégraphiques contre les agaves, des fils de fer barbelés contre les palmiers barbelés, des nappes de brume dans des couloirs puants contre l'ombre humide des platanes sur des places torrides, des escaliers courts de souffle contre les puissantes collines. La longue rue de Lyon est la galerie que Marseille a creusée dans le paysage pour le faire sauter à Saint-Lazare, Saint-Antoine, Arinque, Septem et le couvrir des éclats d'obus de toutes les langues des peuples et des firmes. Alimentation moderne, rue de Jamaïque, comptoir de la limite, savon, l'abat-jour, minoterie de la campagne, bar du gaz, bar facultatif, et sur tout cela, la poussière qui s'agglomère à partir du sel de mer, de la chaux et du mica, et dont l'amertume reste plus longtemps dans la bouche de celui qui a goûté la ville que le reflet du soleil et de la mer dans les yeux de ses admirateurs. Ah, il manque un... Tiens, c'est bizarre. Écoutez, il manque un carton... Ah non, il y a eu un petit bug, mais c'est pas très grave. Je regarde, j'espère que je ne suis pas trop long. Bon, j'ai encore une demi-heure, ça va. Je vais donc passer à la troisième partie, dans laquelle je vais vous présenter ce sur quoi je travaille en ce moment, qui est la traduction d'un récit de voyage dans une région du nord de l'Angleterre, qui s'appelle la région des lacs, Lake District en anglais. Et avant cela, je vais vous faire une petite... Avant de vous lire un extrait de cette traduction qui est en cours, je vais faire une sorte d'introduction pour vous parler des thèmes qui m'intéressent autour du paysage et particulièrement du développement de la culture du paysage au XVIIIe siècle en Angleterre. Il y a plusieurs années, un ami photographe m'a conseillé la lecture de L'émergence du paysage, un essai de Michael Jacob, un théoricien suisse du paysage, paru en 2004 chez Infolio. Comme l'indique le titre de l'essai, Jacob cherche à définir comment la notion de paysage apparaît dans la culture européenne. Plus qu'une origine unique, il définit différents seuils qui permettent cette émergence. Ceci étant dit, un passage de cet essai m'a profondément marqué, et je vous affiche un extrait que je vais bientôt lire. En effet, Michael Jacob y avance que ce n'est pas à l'artiste ou aux artistes, mais aux touristes que l'on doit l'émergence du paysage réel comme objet de contemplation. Quand il évoque le touriste, Michael Jacob fait référence non pas au touriste d'aujourd'hui, mais à son lointain ancêtre, le voyageur lettré qui, depuis la fin du XVIIe siècle, s'adonne au grand tour en France, en Suisse, en Allemagne et surtout en Italie. Selon l'expression de Michael Jacob, le touriste serait le héros du paysage malgré lui. Et je vais vous lire ce petit extrait qui résume un peu son idée. Le touriste, l'homme en formation lors du grand tour, voyage librement, mais il possède déjà des modèles. Il est guidé, mais il devient à son tour guide, étant donné que son voyage se transforme dès le début en écriture, en une série d'images, littéraires et picturales, extérieures et intérieures. Il adopte et forme des modèles. Le touriste a vu des tableaux, paysages, des gravures, et il a lu des textes, surtout des classiques, Virgile. Il est préparé, mais il est aussi libre de comparer. La comparaison, basée sur l'observation, la transformation et la correction, autrement dit, la sémiotisation de l'expérience du voyage, forme le véritable centre du tourisme. Donc voilà, c'est...